Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusé tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés par Midia Portis Guérin cette semaine, avec Jean-Richard Dufour à la technique, et préparés comme d'habitude par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Marine Boistet et Adèle Van Rett. Adèle qui recevra Christophe Salin à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour vous parler du philosophe David Hume et de l'idée qu'il se fait du bonheur. Tiens, Hume d'ailleurs, c'est un philosophe qu'on effleure seulement en terminale et c'est bien dommage. David Hume n'est pas seulement le réveil matin du grand Emmanuel Kant qui déclarait grâce à lui être enfin sorti de son sommeil dogmatique. Il y a des hommages comme ça qui affermissent et réduisent à la fois le jugement de l'histoire. Quoi qu'il en soit, Adèle vous parlera de bonheur tout à l'heure et nous, on va vous parler de joie tout de suite, hein, puisque cette semaine, les Nouveaux Chemins vous proposent tous les jours de préparer ou de repasser le bac philo en compagnie de 5 professeurs de terminale qui assument le risque de passer eux-mêmes l'épreuve qui terrifie indûment leurs élèves. Une semaine en partenariat naturellement avec Philosophie Magazine, dont le hors-série sur le bac philo est comme toujours un modèle du genre. Après avoir parlé du désir hier, avant de parler demain de la mort, c'est aujourd'hui la joie, la grande réponse de la joie que nous allons questionner en compagnie de Franck Lelièvre, qui enseigne en terminale au lycée Charles de Gaulle à Caen et à qui l'on doit l'existence de la Société Normande de Philosophie Longue Vie à Elle. La philosophie peut-elle enseigner la joie de vivre? C'est donc le sujet du jour en compagnie aujourd'hui de Franck Lelièvre qui enseigne à Caen au lycée Charles de Gaulle. Bonjour Franck Lelièvre.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes provisoirement dans la position de l'élève car le principe de cette semaine, je le redis encore, je le redis tous les jours, c'est que les professeurs subissent l'épreuve qu'ils infligent. Donc, la philosophie peut-elle enseigner la joie de vivre? Élève Lelièvre, vous avez 50 minutes pour nous répondre. Comment réagissez-vous d'abord face à un tel sujet?
J'ai réagi par la surprise, bien entendu, parce que entre philosophie et joie de vivre, a priori, il semble bien que les choses soient très différentes. Et puis surtout, je pense à mon année de philosophie et ça n'a pas toujours été la joie. Donc la question est de savoir, au fond, quel rapport ça pouvait avoir avec la joie, cette affaire.
Mais alors, face à cette contradiction entre philosophie et joie de vivre, il y a entre les deux termes hein, du sujet, philosophie et joie de vivre, il y a un verbe dont l'analyse ici suppose ou permet peut-être d'obtenir la problématique. Comment est-ce que vous procédez, Franck?
Alors, la première chose à dire, au fond, puisqu'on va évidemment tenir le rôle aussi du professeur et de l'élève, c'est qu'on n'attend rien. On n'attend rien. Répéter aussi que, sans doute, un peu comme ces épreuves initiatiques en Afrique, le bac est une épreuve qui se passera tout seul pour l'élève. Il va le réussir, c'est un bon. Et donc, ce qu'on attend de lui précisément, c'est qu'il soit capable de ne pas réciter ou de ne pas, au fond, comment dire, se soucier de ce qu'il faudrait dire. Il va falloir qu'il dise quelque chose justement là-dessus. Hein. Et les philosophes sont merveilleux, formidables de ce point de vue-là, parce qu'ils vous donnent une discipline. Et c'est cette discipline, ce sont ces habitudes qu'il va falloir faire jouer. Alors il y en a une qui est très simple, c'est le peu. Hein. Est-ce que c'est possible? Autrement dit, est-ce qu'entre la pensée et la vie, il y a un rapport quelconque? Et puis surtout, est-ce que c'est permis? Je dirais même plus, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que finalement, le travail de la philosophie ne serait pas de permettre d'explorer cette joie qui est au cœur de la vie? Alors évidemment, là, la question est de savoir comment. Et c'est tout l'enjeu de ce sujet.
S'il fallait résumer la problématique en une phrase qui contienne donc l'ensemble des questions qui seront développées, du plan que vous allez proposer, quelle serait cette phrase, quel serait ce fil rouge de votre dissertation?
Le fil rouge, c'est la joie, c'est l'analyse de la joie. Et qu'il puisse y avoir une joie à vivre, chose importante, qu'est-ce que c'est que la joie? Et puis qu'il puisse y avoir aussi une joie à penser, une joie tout à fait intense qui s'est transmise depuis l'Antiquité et que notre rôle de professeur, de philosophe, de penseur est de transmettre. Voilà.
En d'autres termes, la question même, et alors là c'est un cas de figure assez particulier auquel nous sommes confrontés face à ce sujet, c'est que l'analyse même, la démonstration philosophique de la joie de vivre ou du fait que vivre est une joie est une façon de répondre implicitement à la question de savoir comment la philosophie peut enseigner la joie de vivre. C'est-à-dire que pour y répondre, il suffit de démontrer qu'il y a de la joie à vivre. C'est cela que vous dites.
La joie à vivre et la joie à penser. Donc il faut penser les deux en même temps et c'est pour ça que, de fait, je crois qu'une dissertation bien réussie est celle qui donne, qui surprend le lecteur, qui surprendra l'élève aussi d'ailleurs, parce qu'à la fin, il aura eu la joie de créer quelque chose. Mais c'est anticipé sur la réponse, puisqu'il n'y a pas de joie sans création. Donc il y a aussi de la création dans la pensée, et c'est l'objectif, je crois, d'une bonne dissertation. Alors, il y a des codes, il y a des méthodes, un peu comme au jazz, il y a des... pour improviser, il faut quand même suivre un peu des conseils, et c'est le cadre dont on va parler aujourd'hui, je pense aussi.
Alors, on y vient. Venons-en au plan. Quel plan il faut avoir en tête là, comment, quel plan proposeriez-vous?
Voilà, c'est une proposition parce que de fait répéter qu'on n'attend rien, de fait répéter que il s'agit pas de plaire, il s'agit pas de faire ce qu'on attend de vous, et surtout pas de réciter ce que vous avez pu apprendre pendant l'année. Bon, le plan que je propose, c'est un plan un peu personnel, un peu surprenant. On commence par des classiques puisque la philosophie comme style de vie, comme méthode de vie, eh bien, c'est la philosophie antique. Et il y a une philosophie qui est la philosophie épicurienne, dont on a un très grand représentant en France, qui est Montaigne, qui prétend précisément que c'est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Alors, comment est-ce qu'on peut procurer la vie heureuse par des discours et par des raisonnements? Eh bien, paradoxalement, et je crois qu'il ne faut pas se mentir sur ce genre de sujet en scrutant ce qui rend la vie insupportable. Et j'ai nommé la mort. La mort, la misère, l'ignorance dont Pascal dit que pour se rendre heureux, les hommes ont préféré de ne pas y penser. Mais la philosophie, elle va justement travailler à y penser.
En d'autres termes, première partie, la vie n'a rien de réjouissant.
Tout à fait. Donc, ne pas considérer au fond l'épicurisme comme une philosophie de la facilité, tout au contraire.
Et sans brûler les étapes, Franck Lelièvre, quand même, après tout, il n'y a pas de suspense. C'est aussi un exercice de maîtrise, une dissertation. Naturellement, on est dans une maîtrise créatrice, à vous entendre. Tous les professeurs ne soutiennent pas cette thèse-là. Hein. C'est intéressant de vous entendre à cet égard. Donc sans brûler les étapes, mais tout de même, quelle deuxième partie et quelle troisième partie allez-vous proposer?
Voilà, la question seconde est celle de la méthode, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là par la philosophie, et je soutiendrai que c'est un exercice collectif, voilà, et que la joie est partagée. Et donc qu'il y a une vieille tradition de thérapie par la philosophie, mais c'est une thérapie qui passait par le maître, un rapport à un maître, qui passait aussi par l'amitié, qui passait aussi dans de grandes traditions par l'expérience de l'amour, et qui passait aussi, je crois, et il faut le dire en ce moment, par l'expérience d'un collectif. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un rapport au politique dans ce sujet. Donc on va un peu déconcerter, je crois, et l'auditeur et le lecteur en faisant une partie où on parlera de ça. Et j'en parlerai tout à l'heure.
Et troisième partie, alors?
Et la troisième partie consiste à essayer de cerner quelle est cette joie particulière que la pensée peut donner. C'est-à-dire qu'après avoir dit qu'il y a dans la vie de la joie, ce qui, après tout, n'est quand même pas un mystère, mais avoir insisté là-dessus contre une tradition qui veut nous faire dire que philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est l'abstraction, etc. Eh bien, on va essayer de cerner un peu ce que c'est exactement que cette joie que la pensée donne et que la pensée donne seulement.
Franck Lelièvre, on est ici dans un plan iconoclaste. Et je voudrais vous faire ici deux objections d'ordre méthodologique et savoir comment vous y répondez. D'une part, est-ce que votre plan ne commet pas le péché, peut-être mortel ou pas d'ailleurs, ou le péché immortel justement, de suivre trop l'histoire des idées, au fond, c'est-à-dire de faire première partie Montaigne, deuxième partie, je ne sais pas quel interprète de l'exercice collectif de la philosophie vous allez prendre, troisième partie Spinoza, par exemple.
Ou Bergson,
tout à fait. Est-ce que nous ne sommes pas là excessivement dans l'histoire des idées? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas une dissert d'histoire des idées que vous faites là? Et deuxième question, qui est liée à la première, c'est est-ce que le plan que vous proposez n'a pas le tort d'être exclusivement dans une logique affirmative, au fond, et de ne pas donner sa chance à l'hypothèse selon laquelle non seulement la vie n'a rien de réjouissant, mais surtout la philosophie peine à enseigner la joie de vivre, car la nature de l'enseignement de la philosophie, c'est précisément de nous découvrir ce qu'on passe notre temps à se cacher, et c'est pas un hasard, parce que c'est pas drôle, ni à savoir, ni à entendre.
Raphaël, je vous promets des surprises, c'est l'objectif. J'entends parfaitement l'objection, et je crois que vous l'avez dit, c'est un peu l'école française de la philosophie, il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas de doctrine type, nous sommes une pluralité. Pour ma part, j'assume totalement la position de la transmission. J'ai parlé du maître, et j'entends être plus qu'un professeur, un maître, parce que je crois que les philosophes sont des maîtres, et de fait, c'est ainsi qu'ils vous forment. Donc, mon travail est de transmission, et par cette transmission, un peu comme pour la musique, d'incitation à la création.
Joie musicale contre les douleurs de la vie, c'est par ces mots que Clément Rosset qualifie Carmen, précisément reprenant en cela la leçon de Nietzsche, la vie est douloureuse, mais rien n'interdit à la musique de la magnifier pour autant. Franck Lelièvre est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, dans la seconde semaine que les Nouveaux Chemins consacrent au bac philo, la philosophie peut-elle enseigner la joie de vivre ? C'est la question du jour. Lièvre, j'ai peut-être dit un peu rapidement tout à l'heure que votre logique était exclusivement affirmative, car dans la première partie, vous allez quand même donner sa chance à l'hypothèse selon laquelle la vie n'a rien de réjouissant.
Tout à fait, tout à fait.
Allons-y.
Dans la grande tradition du « qui accroît sa science accroît sa souffrance », la vie la plus douce, ce serait la vie sans pensée, comme disait Sophocle, enfin ces vieilles traditions qui ont nourri d'ailleurs Nietzsche, et Nietzsche qui admirait infiniment Carmen que nous venons d'entendre. Donc c'est à partir de là, je crois, que la question devient sérieuse et intéressante. Et on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, pourtant effectivement je crois qu'on l'est, et je pense que l'idéologie de la jouissance et du bonheur qu'on nous resserre partout, eh bien est un frein à l'entrée dans la philosophie, et qu'il serait bon que les élèves de notre temps réagissent à la contre. Et c'est l'objet, c'est le sens de ma première partie.
C'est-à-dire, alors que désignez-vous comme idéologie du bonheur ? Est-ce que vous commencez par cette critique de l'idéologie du bonheur, ce que vous appelez l'idéologie du bonheur ou de la jouissance ?
Absolument, parce qu'il y a un rapport entre les philosophes. Ils sont dans un dialogue presque amoureux, une sorte de combat. Et il y a un combat classique, enfin, entre Platon et Épicure, et l'un ne va pas sans l'autre. L'élève aussi aura sans doute étudier, méditer, les méditations métaphysiques de Descartes qui commencent quand même par quelque chose de très dur. Et puisque j'ai choisi Épicure, homme qui souffrait, paraît-il, d'une maladie terrible, enfin des calculs dans le rein, on ne sait pas trop, enfin une vie de souffrance, puisque j'ai aussi cité un philosophe qui nous est cher tous les deux, je crois, à savoir Montaigne, eh bien penser qu'il n'y a pas de véritable philosophie du plaisir de vivre sans la traversée de l'épreuve et du désespoir. J'aime beaucoup cette formule du mystique allemand Hamann qui dit « Dans la connaissance de soi, seule la descente aux enfers ouvre les portes de l'apothéose. »
Alors descendons aux enfers, justement.
Et oui, et oui. Donc ce serait peut-être un peu terrible pour un élève de 16 à 18 ans, mais il est vrai que sinon, cette théorie du plaisir n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de sens. Hein.
Cela dit, je fais juste une parenthèse quand même. Hein. Vous dites « c'est terrible pour un élève de 16 à 18 ans ». 16 et 18 ans, entre 16 et 18 ans, la Boétie a écrit le traité de la servitude volontaire. Je veux dire, alors, la Boétie est un génie, tous les élèves ne le sont pas. Néanmoins, un adolescent est parfaitement, d'abord, parfaitement intelligent, deuxièmement, parfaitement capable d'endosser la difficulté d'exister, la douleur de vivre. J'ai même tendance à penser que, mais peut-être serez-vous d'accord, j'en sais rien, que l'âge adulte se définit aussi par la somme de sédiments et de paravents qu'on a déposés sur cette douleur initiale dont on était capable quand on était plus jeune.
Je vous remercie de m'inviter pour parler de ça, parce que le fait massif de nos classes est quand même la dépression. Enfin, nous avons des publics qui sont dans une espèce de désorientation, qui est un phénomène tout à fait contemporain. Je crois qu'en plus, c'est l'âge. Si l'enfance, c'est la philosophie par l'émerveillement, l'adolescence, c'est l'effondrement des certitudes. Et la philosophie, c'est un travail pour ne pas se mentir. Ça serait ma définition de la philosophie, ne pas se mentir. Donc, vous avez cité Rosset, Schopenhauer, Nietzsche... Je crois qu'il faut commencer par là, et je pense que tous ceux qui ont su véritablement jouir de la vie ont commencé par ce chemin-là. Et vous savez, il y a un sujet qui ne tombe jamais au baccalauréat, parce que paraît-il, il ne faut pas désespérer la jeunesse, c'est la question de la mort. Et pourtant, on sait bien que c'est la question la plus importante, à mon avis. Et c'est d'ailleurs la question qui passionne les élèves. De fait, nous avons un excellent sismographe de l'époque contemporaine qui est Houellebecq. Et je peux dire que je dois témoigner du fait que nos publics, nos élèves, vivent des situations, malheureusement, à leur corps défendant, qui sont assez bien décrites chez ce romancier. Donc je crois que, d'une part, en tant que professeur, il faut les chercher là pour ne pas leur raconter d'histoire, et que je crois aussi leur montrer que la philosophie, dans une certaine mesure, peut leur offrir un secours dans cette position qui est celle-là. Parce qu'elle, elle ne raconte pas d'histoire. Nietzsche, justement, critiquait ce qu'il appelle le nihilisme, ce monde où il n'y a plus de questions, où on va vivre, on aura un petit médicament pour vivre, on aura un petit médicament pour dormir, et bientôt on aura un petit médicament pour mourir. L'euthanasie, à laquelle on nous pousse de tous les côtés. Voilà, la philosophie, je crois, dans son travail critique, consiste à critiquer. Et c'est ce que Montaigne, c'est ce qu'Épicure ont fait constamment.
Alors, la critique de l'euthanasie va souvent, en tout cas chez Montaigne, avec un éloge possible du suicide.
Tout à fait, bien entendu. Oui, c'est un sujet que j'aborde trop rapidement. C'est plutôt le fait de ne pas supporter les situations de souffrance, les situations de dureté, ne pas les reconnaître. Oui, Montaigne disait, nous avons la philosophie ou une corde pour nous pendre quand la douleur est trop grande. Là, c'est une liberté rigoureusement personnelle. Ce que je mets en question par là, c'est plutôt la pression sociale. La pression sociale et le déni de la souffrance, le déni de la dépression... que je crois tout homme traverse, l'adolescence en particulier. Mais précisément, au cœur de cette épreuve, il y a, Freud le dit dans un texte sur la mort, nous avons le désir d'aimer la vie. Il faut aimer la vie. Voilà. Il faut aimer la vie, mais il faut d'abord la connaître.
Allez, voilà. Est-ce que dans votre dissertation, vous commencez par expliquer que la vie est douleur, pour dire ensuite que le déni de la douleur ou le déni de la souffrance redouble la souffrance qu'elle prétend nier. Est-ce que c'est ça le cheminement ?
Tout à fait. Elle nous prive de l'épreuve elle-même et de ce que l'épreuve pourrait avoir de positif. Vous connaissez la formule de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors, il ne faut bien entendu pas exalter la souffrance ni les épreuves, mais je crois qu'il faut les regarder face à face et que là, effectivement, on y gagne une force. On y gagne une véritable force, une force qui nous apprend justement à jouir de l'instant. Carpe diem. Donc j'aurais volontiers, de mon point de vue, un regard critique sur l'idée même dans laquelle sont placés nos élèves, ça arrivera plus tard. Je permettrai de citer une formule d'Épicure, une très belle formule d'Épicure. Toi qui n'es pas de demain, tu ajournes la joie, la vie périt par le délai et chacun de nous meurt affairé. Donc là, on a la grande critique de cette attitude dans laquelle, sans doute d'ailleurs du fait de l'abstraction, sans doute du fait d'un certain usage de la philosophie, eh bien, on passe à côté de sa vie. Mais je crois que la philosophie là-dedans n'est pas responsable. Je pense que toute la société nous le dit. Passe ton bac d'abord, pense à ton orientation, sois sérieux, qu'y arrivera-t-il demain ? Et la philosophie a toujours eu ce rôle subversif. Moi, je pense à Deleuze qui, en plein cours, faisait de la scie musicale. Il arrivait avec une scie musicale. Et ça devait quand même sacrément, comment dire, choquer les élèves et les collègues et les parents. Ou Sartre qui apprenait la boxe à ses élèves. Bon, bah, peut-être on a aussi à apprendre autre chose que de la pure abstraction. Ou en tout cas, dans l'abstraction philosophique, on va parler de ça.
Alors, juste un point. Qu'est-ce qui distingue, donc Épicure qui dit « la mort nous trouve affairés ». Est-ce que, alors, cette phrase peut être entendue comme on peut retrouver une intuition comme ça chez Pascal. Espérant d'être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Donc cette façon que nous avons d'ajourner le bonheur est en réalité une façon de ne jamais être heureux. On peut tirer cette phrase de ce côté-là. On peut aussi la tirer du côté de Montaigne, qui paradoxalement ferait l'éloge de l'affairement en disant « Je voudrais que la mort me trouve plantant mes choux ». En quel sens comprenez-vous cela, cette alternative, Franck Lelièvre ?
Voilà, il y a une formule très célèbre d'Épicure disant « La mort n'est rien ». D'où on traduit « Il ne faudrait pas y penser ». Et c'est tout à fait l'inverse. Elle est tout, bien entendu, puisque c'est elle seule qui nous permettra de définir la vie, l'espace de la vie, la limite de la vie, le caractère éphémère de la vie. Mais précisément l'opposition classique entre un Pascal et un Montaigne, entre un Platon et un Épicure, c'est que précisément lorsque nous vivons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous ne sommes plus. Autrement dit, elle n'est rien au sens où il n'y a rien à penser de la mort. Comme disait Montaigne, c'est le bout, ça n'est pas le but. Et donc, il va falloir apprendre à accepter cette condition. Il va falloir apprendre cette position où, dit Montaigne, le déterminer et le savoir comme le donner appartiennent à la régence et à la maîtrise. Autrement dit, si on était maître et possesseur de la nature, nous n'aurions plus besoin d'apprendre à jouir de l'instant. Mais, dit-il pour conclure, à l'infériorité, suggestion et apprentissage apprennent, et j'aime beaucoup le mot, le jouir et l'accepter. Pour apprendre à jouir, c'est-à-dire véritablement pour apprendre à saisir le plaisir, parce que nous aurons aussi, chemin faisant, à analyser ce qu'on appelle la joie, mais enfin je vous rappelle quand même que la langue le dit très clairement, il y a des filles de joie. Et la nature, la vie, le plaisir se manifeste aussi par là en donnant de la joie. Et bien pour apprendre à l'accepter dans sa fragilité éphémère qui en fait tout le prix, je crois qu'il faut effectivement l'adosser à une pensée de la mort comme terme. Il n'y a rien après.
Ça, c'est génial, Franck Lelièvre.
Je vous remercie.
Non, mais c'est génial. C'est pas de vous. Hein,
non.
Mais bon, c'est tout à fait... C'est une option philosophique extraordinairement séduisante et géniale. Mais est-ce que méthodologiquement, vous ne brûlez pas les étapes en affirmant tout de suite que, au fond, toute philosophie de la joie repose sur une pensée de la mort, tout démonisme se donne des postulats qui en eux-mêmes n'ont rien de réjouissant. Est-ce que méthodologiquement, un élève n'a pas intérêt à commencer par durcir le trait de la douleur de vivre, de la difficulté d'exister, pour ensuite, par un renversement qui en fait n'en est pas un, qui repose sur l'acceptation et la connaissance de la douleur comme condition d'une joie ultime, en venir donc à dire ce que vous dites maintenant?
Je dirais deux choses. Le conseil que je donnerais à un élève, c'est d'être soi-même à condition d'être quelqu'un. C'est-à-dire, sur toutes les questions importantes, de savoir à la fois être modéré, tempéré, prudent, la politique, Dieu, etc., mais d'avoir des positions. Et c'est pourquoi j'assume la position épicurienne. Bien entendu aussi, vous le verrez, c'est tout l'exercice que l'on apprend, on va faire évoluer cette question. Parce qu'un Pascal, par exemple, précisément dans son expérience mystique, certitude, certitude, joie, joie, pleure de joie, dans le rapport à Dieu, il y a aussi une joie possible. C'est ce que nous allons voir. Je prétendrais que c'est une joie à l'intérieur de la vie. Et que peut-être, contrairement à ce qu'a dit Nietzsche, au fond, le christianisme comporte pour une part une réévaluation de la chair et sans doute aussi quelque chose qui a rapport à la vie. Mais ça sera pour plus tard, ce serait pour à côté, ce ne serait pas une dissertation de terminale. Ce serait une discussion entre nous. Je dirais par contre, qu'effectivement, si on veut pousser jusqu'au bout l'analyse d'Épicure, lui rendre son tranchant, il importe véritablement de montrer son opposition à une certaine position religieuse, qui fait effectivement que, je crois, dans ces positions-là, comme chez Montaigne, entre joie et plaisir, il y a un rapport intime, profond. Et c'est pour ça que j'ai parlé précisément du plaisir, que Montaigne, comme vous le savez, a célébré, et ô combien. Et très clairement et très précisément.
Et avec tant de génie. On est toujours donc dans cette première partie. En général, quand on est dans ces dissertations, à chaque fois, les professeurs prennent soin de dire que la deuxième partie n'est pas l'antithèse de la première partie, car si c'était le cas, on pourrait écrire la deuxième partie avant la première. Il faut bien que ce soit par une radicalisation, par un creusement, comme aurait pu dire Montaigne, du propos, qu'on en vienne à cette deuxième partie, c'est-à-dire manifester éventuellement les impasses d'une thèse pour justifier son infléchissement, son inflexion. On a vu, ou plus exactement, on le sait, puisque vous nous l'avez dit tout à l'heure, que dans un deuxième temps, la philo sera pour vous vécue comme un exercice collectif et donc à cet égard susceptible d'enseigner la joie. Mais pour être encore dans cette première partie, à quel conclusions vous conduisent ces considérations sur la douleur d'exister, la souffrance, le mal de vivre, tout ce qui semble inviter à tourner le dos à la vie au motif qu'elle n'a rien de réjouissant, Franck Lelièvre.
Eh bien, c'est à préciser l'idée qu'il y aurait un art de vivre. Un art de vivre qui n'est ni une méthode, qu'il s'agirait et suffirait d'appliquer, comme dans les magazines, on vous explique hein, comment plaire, comment réussir dans sa carrière, etc. Ni une science, bien entendu. Un art au sens où, effectivement, il y a une application, une attention, puisqu'en ce moment, on parle du Japon, il y a beaucoup à apprendre, malheureusement, de leur sérénité, d'une part, qui est effectivement un apprentissage du caractère éphémère, mais aussi une attention aux détails. Une attention aux détails qui est le grand art, effectivement, de la philosophie. Épicurienne. Et on pourrait développer, je crois, sur quelques exemples, la fameuse formule de Montaigne qui dit « lorsque je danse, je danse, lorsque je dors, je dors ». Alain disait que le contraire de libre, c'est occupé. Donc il y a un art, je crois, dans notre société hyper nerveuse, hyper excitée, enfin, il y a un art de la pause, un art de l'arrêt.
P-A-U-S-E.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un art de la pause contre lequel on va lutter précisément en apprenant à habiter sa propre vie, en se déprenant de ces sortes d'autorités extérieures. Et d'ailleurs, on aimerait, mais bien entendu c'est facile à dire plus tard, que le moment de dissertation du baccalauréat soit ce moment de la pause. P-A-U-S-E. C'est-à-dire le moment où l'élève, enfin, une fois dans sa vie peut-être, aura rencontré la pensée directement.
Une sorte de moment magique.
Voilà. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise. La philosophie peut-elle enseigner la joie de vivre? C'est la question du jour, c'est Franck Lelièvre qui s'y colle aujourd'hui. Franck Lelièvre qui enseigne au lycée Charles de Gaulle à Caen. La philosophie peut-elle enseigner la joie de vivre? On se demande d'ailleurs à vous entendre s'il ne faudrait pas poser la question dans l'autre sens. Avant d'aller dans le détail de la deuxième partie que vous proposez, Franck Lelièvre, juste un point. Cette chanson de Lou Reed s'appelle Magic Moment. Ça n'est pas un hasard. On peut faire une objection au moment magique. Alors, naturellement, ceux qui disent que ce qui ne dure pas ne doit pas être recherché comme tel, ceux-là, on peut leur dire, mais dans ces conditions, vous préférez la totalité de rien à la moitié de quelque chose, ce qui est un mauvais calcul, au fond. Bon, très bien. Néanmoins, est-ce qu'une philosophie qui se contenterait de vanter la succession ou la juxtaposition de moments magiques n'est pas une philosophie qui culmine au fond dans l'angoisse au moment de mourir face à une existence dont on n'aura jamais pu thésauriser tous les moments magiques qu'elle contient, Franck Lelièvre. Et au fond, est-ce que le moment magique n'est pas à l'avance le deuil du moment où il cessera d'être, hein ? Mais pourquoi vouloir thésauriser ? Enfin, la formule célèbre le dit, toute joie veut l'éternité, c'est-à-dire qu'une vraie joie comporte en elle-même quelque chose qui, au fond, fait que, eh bien, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais elle aura été cette joie. Alors, évidemment, ensuite, il y a une ouverture sur la possibilité de lui donner une permanence.
C'est vers cette permanence que nous allons tendre maintenant. On est dans la deuxième partie de votre dissertation, Franck Lelièvre. Comment fait-on, comment surmonte-t-on donc la difficulté d'exister, la douleur d'exister. De quelle manière ?
Et d'abord, on apprend la philosophie, on apprend sa méthode, et j'aime beaucoup son côté scolaire. Elle nous a transmis la méthode dialectique, c'est-à-dire qu'il va bien falloir à un moment ou un autre se critiquer soi-même, comme vous ne le cessez de le faire, et je vous en remercie depuis tout à l'heure, c'est le jeu. Et on y apprend beaucoup de choses dans cette méthode-là, parce qu'il va falloir tenir les deux rôles à la fois. Il ne s'agit pas de dire le pour et le contre, mais il s'agit de penser les deux ensemble. Et bien entendu, de penser la limite, je crois, essentielle d'une certaine conception qu'on est en train d'essayer de nous vendre partout, de la philosophie comme thérapie, qui, on le sait malheureusement, s'accompagne d'une disqualification des thérapies dont l'histoire a été si fondamentale pour la philosophie du XXe siècle. Et je veux parler de la psychanalyse et bien entendu aussi d'un recul du politique, des enjeux de nos élèves et des enjeux contemporains de la pensée. Or, la catastrophe du Japon nous le rappelle, ce qui se passe au Liban nous le rappelle aussi. Bien entendu, le vivre n'est pas enfermé dans la philosophie, et si la philosophie a un rôle, c'est d'ouvrir à ce vivre-là, et c'est, je crois, ce qu'il faudra développer dans une deuxième partie.
On y est.
Alors, ce que je développerai, bien entendu, c'est la question est de savoir si la philosophie peut se réduire à n'être qu'une méthode, un art de vivre. Et à ce moment-là, bien entendu, je crois qu'elle serait, au fond, disqualifiée, en tout cas très inégale par rapport à des sagesses d'Orient, qui, je crois, sont magnifiques, qu'il ne faut surtout pas mépriser. Et de ce point de vue-là, et d'autres méthodes, au fond, pour cultiver le bonheur ou la joie, vous venez de le dire. Enfin, il y a la musique, il y a la littérature. Le travail philosophique, on le c'est bien, est aussi un travail de réflexion critique. Et c'est en ce sens que je développerai mon antithèse, en disant que... alors, comprenez bien...
Juste un point, pardon. Est-ce que le mot d'antithèse n'est pas abusif ?
Non, je le maintiens. D'accord. Je le maintiens parce qu'il y a cet exercice de la contradiction qui est un exercice de la raison. Et la philosophie est la seule discipline qui soutient cette contradiction. Alors, bien entendu, j'ai beaucoup de collègues qui ne sont pas d'accord avec ça, parce que c'est comme un moule à gâteau, vous comprenez, il ne suffit pas d'avoir le moule pour faire un bon gâteau. Donc, cette méthode donne des résultats, disons, contrastés. Mais je dirais, mieux vaut une discipline, mieux vaut des habitudes de pensée, on en parlera avec Bergson, les habitudes de pensée qui vous rendent créateur, plutôt que du « bien, écoutez, il n'y a pas de méthode, chacun se débrouille comme il peut », etc. Que j'ai connu, moi, comme élève, mais nous étions une autre génération où nous étions formés déjà, et nous avions tous ces secrets de la rhétorique. Et je suis pour une école de l'émancipation, une école qui donne à l'élève qui n'a pas eu le milieu social qui lui a donné les codes, eh bien, il lui faut lui donner ses codes. Et tant pis si il paraît un peu raide, parce que de fait, c'est le travail de l'école.
Alors on clôt la parenthèse, vive l'antithèse, allons-y.
Alors l'antithèse consiste à rappeler que la conception antique a disparu pour deux raisons. Je ferai un peu d'histoire de la philosophie, mais je crois qu'il faut le faire. D'abord, il y a eu la religion, qui a relevé largement, au fond, cette conception antique et qui a eu des succès collectifs, alors que la philosophie, c'était des petites sectes, enfin. Et puis, il y a eu aussi, bien entendu, l'invention de la médecine. Et notre très grand philosophe, magnifique philosophe Descartes, hein, qui prétend qu'effectivement, il faut devenir non pas maître et possesseur, mais comme maître et possesseur. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, effectivement, Dieu, pour Descartes, qui est le véritable maître. Donc, la perspective dans ce cas-là est une perspective, au fond, éthique. Il s'agit de procurer le bien général du genre humain, et puis il y a surtout la nature. Et cette nature, au fond, résiste. Et de ce point de vue-là, un élève qui aurait bien travaillé pendant son année ne peut pas ne pas avoir rencontré, par exemple, les problèmes liés au vivant, mais par exemple, les problèmes liés à la souffrance psychique, à la maladie mentale, à tout ce que Freud disait, a pu nous proposer, disant au fond aux philosophes qui prétendaient rejeter d'un revers de la main cette étude, eh bien, venez m'expliquer une obsession. Prenez une véritable obsession d'un névrosé obsessionnel et venez-moi la guérir. Bon, alors, de fait, les élèves en difficulté, en souffrance, nous en rencontrons. Et ce n'est pas le philosophe qui prend en charge ce genre de choses. On ne peut pas enseigner la joie de vivre à quelqu'un qui est dans la véritable souffrance. Donc là, il y a cette ouverture qui me paraît importante, à savoir que la
C'est-à-dire,
philosophie...
plus exactement, le faire serait attribué à la philosophie un rôle finalement abusif qui serait celui de... Penser que la philosophie enseigne la joie de vivre, ce serait comme demander à la raison de gouverner tous nos gestes.
Bien entendu, c'est une imposture. Et sur les impostures se créent les pouvoirs et se créent les fascinations. Et Dieu sait que le professeur fascine ses élèves. Et donc, par contre, il assume, comme je l'ai dit, je crois, et c'est ça, c'est son rôle, c'est sa fierté, il assume la position du maître. Et il rappelle, justement...
C'est-à-dire l'anti-gourou, hein ?
Et tout à fait. Tout à fait. Le maître à penser, Socrate, celui qui dit, au fond, eh bien, il faut apprendre à chercher. Et qui donne les outils pour apprendre à chercher. Et qui donne l'exemple. Hein. Dans l'Antiquité, cette tradition philosophique se pratiquait dans l'amitié. Et je déplore pour ma part, il est facile de diagnostiquer, au fond, la perte du lien. Donc la philosophie est une tradition qui se transmet, elle ne se transmet pas de père en fils, elle se transmet de maître à élève, elle se transmet de professeur à élève. Et Dieu sait souvent, quand ça se passe bien, que les élèves se souviennent de leur année. Ils auront eu cette rencontre. Bon, il y a d'autres grands moments de joie, bien entendu, qui sont la rencontre de l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire l'expérience amoureuse. Et cette expérience amoureuse, bien entendu, qui fera problème et qui fera que Freud inventera la psychanalyse et d'autres méthodes d'ailleurs. Cette expérience amoureuse, bien entendu, n'est pas remplacée par la philosophie. Enfin, elle s'en nourrit dans le banquet, elle s'en nourrit dans Lévinas, par exemple, tant de grands penseurs. Mais précisément, ici, la philosophie va vous apprendre un rapport critique à la présence de l'autre. À cette manière de faire accueil à sa différence et donc à la question du soin.
On voit ici hein, venir à peu près quelles sont les deux parties de cette deuxième partie. Je le dis à dessein puisque le temps presse et qu'il faut quand même qu'on chemine dans cette dissertation. Mm-hmm. Les deux parties de votre deuxième partie seraient 1. L'impuissance de la philosophie à enseigner la joie de vivre de la manière que la raison ne peut pas nous dicter tous nos comportements. Bon. Et le secret de cette impuissance qui serait de dire qu'au fond c'est la joie de vivre qui nous porte à philosopher comme l'amour porte à chanter.
Ça serait peut-être plutôt cette fameuse formule de Spinoza qui dit « Les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. » Donc, philosophie comme travail de la raison, philosophie comme travail, justement, vous l'avez dit, la raison par elle-même ne donne pas la joie, mais elle peut nous permettre, dans des situations d'aliénation, de comprendre les racines et les raisons de notre souffrance. Il y a cette très belle lettre de Descartes à la princesse Élisabeth qui vient voir le philosophe parce qu'elle est mélancolique, et elle lui répond « Écoutez, toute votre philosophie ne me guérit pas de ma mélancolie. » Oui, certes, dit René Descartes, mais enfin, vous voyez que vous êtes capable de faire usage de votre raison. Et cet usage, déjà, est une manière pour vous de prendre le dessus sur cette épreuve. Et donc voilà, la philosophie n'est pas par elle-même toute seule un moyen d'assurer la joie de vivre, bien entendu, elle nous ramène au monde, mais elle y contribue. Malgré tout. Donc, son travail critique est un travail à la fois de déconstruction de certaines naïvetés, on va dire, mais aussi peut-être déjà le chemin vers la troisième partie.
Mais avant d'en venir à la troisième partie, il y avait cet élément du collectif que vous avez laissé entendre dans la deuxième partie. Je pense qu'il faut ici, y venir, justement. Il faut en venir à cela, dans la mesure où c'est à partir de cet élément du collectif que vous pourrez passer à la troisième partie.
Bien entendu, je vous remercie d'ailleurs d'y revenir, parce que c'est très important, c'est la question du commun. C'est la vieille référence d'Aristote qui dit que la politique, c'est l'objectif de la politique, c'est le bien vivre en commun. Et c'est la notion de communauté et non pas de société. Hein. Autrement dit, la vertu de justice. La vertu de justice qui se soucie justement de ce qui va nous permettre, de ce qu'un philosophe, une philosophe allemande, Arendt, appelle justement non pas la force, non pas le droit, mais la puissance. Et la puissance, qu'est-ce que c'est ? C'est assez mystérieux. C'est pas du tout de la bombe atomique. Non, c'est un agir en commun. C'est une rencontre dans l'action où finalement la joie va être partagée parce qu'elle est justement ensemble. Il y a de ces grands moments de joie collective. On en a vécu. Alors évidemment, prenons des exemples. Faut prendre très prosaïque.
Allez, France-Brésil.
Ben voilà, bien entendu, la victoire de l'équipe de France, mais aussi la chute du mur de Berlin. Enfin, une joie intense, hein, et qui nous a fait tous pleurer.
La chute de Moubarak, c'est pareil.
Mais bien entendu. Ouais. Mais bien entendu, ces moments collectifs qui sont de véritables moments de joie sont au cœur du politique. Il y a des moments de terrible détresse. On a souvent parlé du contraste entre 1918 à Paris et 1945, l'ouverture des camps. Donc, Il n'y a pas de joie sans prise en compte, effectivement, de la détresse. Donc, je ne pense pas qu'on puisse penser la joie sans ces expériences-là, mais il faut bien penser aussi que la joie, et ça, c'est moins attendu, c'est un peu le conseil que donne le vieux professeur au jeune élève, puisque je suis dans la position un peu... Bon, c'est de surprendre son lecteur, de parler de choses qui, au fond, seraient inattendues. Et je pense, là, il est important de marquer, au fond, comment la politique s'enracine dans le vivre. Terminons par une référence à l'actualité. Vous savez qu'il y a un philosophe allemand, justement, puisque je parlais de 45, l'expérience des camps d'Hiroshima, qui s'appelle Hans Jonas et qui prétend, au fond, qui dit que la grande question politique contemporaine, ça va être la responsabilité devant les générations futures, qu'elles soient capables de joie. Et je crois là, je pense que tout le monde aura compris que ce qui se passe en ce moment au Japon, ce qui se passe autour de l'atome, nous ramène à ces questions-là. C'est-à-dire que la possibilité de la joie, ce sont les choses concrètes, très simples, et mais c'est aussi effectivement l'attention au collectif.
Est-ce qu'on n'est pas... Alors, malheureusement, il faut enchaîner sur la troisième partie, mais je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Est-ce que la position de Jonas, ce qu'on appelle la futurologie, c'est-à-dire la représentation des mots à venir qui seraient l'effet de notre incurie et qui s'appliqueraient à nos enfants ou à nos petits-enfants ou aux enfants de nos petits-enfants. Est-ce que cette représentation-là n'est pas justement le contraire exact d'une philosophie qui magnifie l'instant, qui considère qu'il s'agit d'être simplement l'ami du présent qui passe?
Voilà.
Très rapidement, là, sur ce point.
Mais je l'assume complètement. Ma première position n'est pas la seconde. La réflexion va s'enrichir de ces passages. Jonas est plutôt un anticipateur de la catastrophe. Et en ce sens, il y a un lien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le plaisir sans la douleur. Donc la catastrophe comme rappel à la joie présente.
Alors allons-y, troisième partie, comment fait-on ? Comment d'abord opère-t-on cette transition entre la deuxième et la troisième partie, Franck ?
Eh bien, c'est, je l'avais dit, la question de savoir, mais bon, une fois qu'on a rappelé la philosophie à l'ordre, une fois qu'on l'a remise sur ses pieds, enfin, de dire, mais qu'est-ce qu'elle peut nous offrir exactement ? Ça sera l'objet de la troisième partie. C'est-à-dire, au fond, quelle est la joie propre, quelle joie propre donne la pensée ? Quel service donne la pensée à la joie de vivre ? Quel service donne la pensée à la vie ? Qu'est-ce que c'est que la vie de l'esprit, autrement dit ?
Alors, comment fait-on ?
Alors, comment fait-on ? Eh bien, on assume totalement la position du philosophe, qui était celle de Platon et qui disait que le philosophe avait les yeux dans les étoiles. Alors, il y a beaucoup de possibilités pour développer ce genre de choses, mais enfin, je pense et je conseillerais la lecture de ce très beau livre à tout adolescent, c'est-à-dire Les problèmes de philosophie de Bertrand Russell, qui se termine par un éloge de la philosophie. Bertrand Russell rappelle que la philosophie garde vivant l'intérêt spéculatif pour l'univers. Autrement dit, sa mission, qui était celle de la métaphysique, de penser Dieu, l'âme et le monde, comme on disait traditionnellement.
C'est Kant qui le dit.
Et évidemment, parce que c'est la vieille tradition de la métaphysique. Et alors, on peut avoir des positions très diverses sur ces questions, et les élèves se demandent souvent, mais surtout les scientistes, on va dire, surtout ceux qui sont au fond dans l'univers de la technique, à quoi ça sert ? Enfin, au fond, pourquoi est-ce que ce genre de préoccupation pourrait avoir une actualité ? Ben, elle l'a, parce que précisément, elle nous oblige à nous décentrer vers des questions que seule la philosophie porte, les questions de l'identité personnelle, du sens de l'existence, hein, dans son ensemble. Les questions de Dieu, à mon avis, sont inévitables, mais j'insisterai beaucoup sur la question du monde. Ça sera la transition, hein, parce que la question de la politique nous amène au souci du monde. Et le monde, comme disait Kant, c'est pas un objet, le monde, c'est un horizon, c'est une idée. C'est un idéal. C'est un idéal à la fois, comment dire, du point de vue, au fond, de la science, parce que l'univers est effectivement, comme on le sait, sans fin, il est infini, donc on ne peut pas le connaître dans sa totalité. Pour penser sa totalité, il faut penser. Et puis il y a le cosmopolitisme aussi, enfin, il y a cette responsabilité qu'on a et, vis-à-vis de la planète, qui effectivement est une totalité. Et la philosophie, je crois, aide, dans toutes les parties du programme d'ailleurs, en quelque sorte, à poser ces questions. Donc c'est plutôt de ce côté-là que je dirais les choses. Au fond, philosopher, c'est se poser des questions qui visent la totalité, qui visent un ensemble et que seule la philosophie offre.
Par exemple, quel philosophe prendrait en charge une telle problématique ?
J'ai parlé de Russell, je pourrais parler de Kant aussi, bien entendu. Hein. Vous savez, la fameuse formule qui était même mise sur sa tombe, « Deux choses emplissent le cœur d'une admiration toujours nouvelle au fur et à mesure que la pensée s'y applique et la contemple. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale dans nos cœurs. » Voilà. Donc, de ce point de vue-là, malgré son abstraction, sa grande abstraction qui déconcerte si souvent les élèves, elle vous oblige à vous recentrer dans le réel, en réalité, parce que le monde, c'est le réel. Hein, et je le dirai tout de suite ensuite, à vous procurer certaines joies qui sont des joies alors spécifiques à la pensée.
Alors, ces joies spécifiques à la pensée ont-elles en commun, justement, de reposer sur la connaissance du réel, plus que sur sa méconnaissance ? C'est ici peut-être qu'il faut faire intervenir une distinction, peut-être elle est tardive d'ailleurs dans cette dissertation, entre la joie et le bonheur se définissant peut-être comme le refus de la souffrance, la joie reposant, elle, à l'inverse, sur l'affirmation de la souffrance, Franck Lelièvre.
Je vous remercie de me rappeler à l'ordre de la méthode. Je dis toujours à mes élèves qu'une dissertation de philosophie n'est pas une démonstration de mathématiques. C'est-à-dire qu'en réalité, comme disait Bergson, c'est à la fin qu'on peut préciser le sens des notions qu'on emploie. Donc il faut partir d'un sens commun, joie-plaisir, rapport de la joie au bonheur, et ensuite, chemin faisant, approfondir, expliciter, détailler au fond ce qu'on appellera la joie et sa distinction avec le plaisir et sa distinction avec le bonheur.
C'est marrant parce que cette méthode est exactement la méthode suivie par Platon dans le livre premier de la République.
Merci.
Non mais c'est vrai, c'est le maître de toute
mais
forme
bien
d'enseignement.
Sûr. Bien sûr.
Tout le premier livre de la République se pose la question de ce qu'est la justice, ou plus exactement de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et Socrate conclut en disant « mais le gibier était à nos pieds, nous ne le voyons pas ». Avant de se demander ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, demandons-nous ce qu'est la justice elle-même. Mmh. Et Socrate s'indigne de cette façon de faire, mais en réalité, il montre ici quel est le cheminement d'une réflexion philosophique qui, partant d'un sens commun, en vient par réflexion à raffiner ce sens commun jusqu'à obtenir une définition.
Tout à fait. Et il serait évidemment, mais là, ce seront les meilleures copies. Enfin, mais il faut toujours, comme disait Spinoza, tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Et il faut viser la beauté.
Dernière phrase de l'éthique, ça.
Voilà, bien sûr. Ce serait le moment, à la limite, de faire une sorte de retour en arrière sur le travail effectué. Et de se demander, effectivement, alors, quelle joie nous a procuré cette dissertation ou cet exercice de pensée. Et là, effectivement, j'ai parlé de Russell parce que c'est une lecture accessible et je la conseille. Vraiment, elle parlera à tout élève de 17 à 18 ans, ce qui est très important parce qu'il faut tout à fait respecter son public et ne pas le mettre dans des choses qui seraient complètement pour lui byzantines, donc Russell. Mais bon, le philosophe qui nous est cher, enfin, qui est particulièrement cher, c'est Bergson.
Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. C'est Bergson.
Tout à fait. Nous en avons parlé pour la victoire de la Coupe du Monde. Il y a effectivement dans le triomphe, dans la victoire, quelque chose de joyeux. Mais il y a surtout, et Bergson de ce point de vue-là est peut-être le grand penseur français du XXe siècle, il y a un rapport entre la joie et la vie, c'est-à-dire le mouvement. Là où le bonheur cherche quelque chose de stable, enfin de sûr, quelque chose qui serait protégé contre les aléas et finalement...
Et fait à l'avance le deuil justement de ce qu'il obtient puisque ça n'est pas stable.
Absolument, et qui est incapable de faire accueil à ce qui est en contradiction avec son programme. Alors que précisément, tout le sens de la méditation que nous avons eue ensemble, si je peux employer ce mot-là, est d'apprendre l'humilité de l'accueil. L'accueil de l'autre, l'accueil du moment, de cet instant, le savoir jouir. Et le savoir jouir, précisément, ça n'est pas la recherche du bonheur, parce que le bonheur, généralement, précisément, est quelque chose qui est a priori. D'ailleurs, Aristote, qui est le seul grand véritable penseur du bonheur, à mon avis, dit qu'au fond, d'ailleurs, pour lui, le bonheur, c'est pas du tout ce que nous pensons comme étant le bonheur, mais une vie réussie, une vie accomplie. Or, c'est à la mort. C'est au moment, c'est à la fin que cette vie se montre comme étant accomplie. Donc, de fait, ne le cherchons pas, il viendra. Il viendra.
Et concluons, cherchons la conclusion. On arrive au terme de cette dissertation. Vous devez rendre votre copie, Franck.
Voilà, eh bien la joie spécifique de la philosophie, c'est l'exercice de ce que l'on a de plus propre, de plus intime, de plus précieux, qui est notre intelligence. Et l'éveil de l'intelligence est une grande joie pour un professeur et c'est une grande joie pour l'élève, je crois. Thank you.
Et si la joie n'était finalement ce qu'on désigne quand on parle d'un pur bonheur, c'est la question infinie que pose cet impromptu de Schubert à nos oreilles. Merci Franck Lelièvre d'être venu nous parler de joie avec tant de joie.
Merci beaucoup.
Sur France Culture, on retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rhett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
De la joie, on passe au bonheur.
Exactement, c'est pas du tout la même chose et c'est important de distinguer les deux. C'est justement ce que nous allons faire en parlant, nous, du bonheur, puisque le bonheur, c'est précisément le thème des essais du grand David Hume dont on va parler aujourd'hui et qui peuvent être lus comme une synthèse sur les différentes façons de penser le bonheur. Et vous allez voir, c'est accessible, utile et finalement assez facile. Bonjour Christophe Salin.
Bonjour Adèle.
Essai sur le bonheur de David Hume. C'est à vous que l'on doit la nouvelle édition de ces textes, hein, qu'on trouve aux éditions Mille et Une Nuits et qui est un petit bijou. Petit parce que aux éditions Mille et Une Nuits, c'est donc un tout petit livre qui ne coûte que 3,50 €. Et je le dis d'emblée parce que ça vraiment, c'est quand même génial que des textes aussi bien que ça soient accessibles à un prix aussi modique. Et un petit bijou parce que effectivement, on peut lire ces textes-là comme une synthèse sur le bonheur, puisque Hume présente quatre philosophes, quatre approches différentes du bonheur chez l'épicurien, le stoïcien, le platonicien et enfin le sceptique. Commençons par une question de forme qui est loin d'être un détail, puisque ce sont des essais sur le bonheur. Et chez Hume, des essais, ça prend un sens bien particulier. C'est une forme qui est bien plus accessible et bien moins peut-être rigoureuse que les traités. Juste avant, il a écrit le traité de la nature humaine. Il y a eu des difficultés de réception de cet ouvrage. Et donc, il écrit les essais moraux, politiques et littéraires. Où s'insèrent ces essais sur le bonheur, Christophe Salin?
Oui, la forme des essais est une forme particulière. David Hume, effectivement, écrit un traité auparavant, dont il pense qu'il a échoué au moment de sa publication. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a quand même eu quelques lecteurs, mais bon, pas à la hauteur de ce que David Hume pouvait s'attendre. Et les essais sont une manière de renouveler dans la forme l'exercice philosophique et sans doute aussi de l'adapter à une fin qui est celle, au fond, que David Hume pense devoir choisir pour sa propre philosophie. Parce que les traités, un traité philosophique, ça s'adresse à un philosophe qui est capable de s'enfermer dans son cabinet pendant de longues heures, de longues jours, de longues journées, de longs mois. Et au fond, c'est peut-être et s'agiter l'âme sur des problèmes qui concernent peut-être 10 ou 15 personnes sur la planète. Alors que les essais, c'est finalement une manière d'aller directement à l'essentiel, de se poser de vrais problèmes philosophiques. Et comme on est dans une forme qui est plus souple, eh bien, c'est au fond l'occasion de faire de la philosophie en compagnie
Voilà, là, il faut recontextualiser hein, ce texte-là, puisqu'au moment où Hume écrit, donc au XVIIIe siècle, c'est la mode des salons, où les gens se retrouvent et discutent. Et la forme des essais permet de jeter un pont, en réalité, entre deux formes de philosophie. C'est ce que vous rappelez très bien dans la postface qui suit donc ces essais-là. Postface très claire et très, très, très instructive, où vous montrez bien que les essais jettent ce pont entre le monde des érudits et celui des mondains, et permettent donc à ceux que Hume appelle les mondains, hein, de discuter d'éléments de philosophie, donc de sortir la philosophie du cabinet du chercheur.
Voilà, et puis d'éviter que le salon se réduise à du bavardage mondain, justement. Là, enfin, dans les salons, on peut approfondir des questions. Et les essais, tous ces essais que Hume écrit, publie pour prendre une revanche, d'une certaine façon, sur le traité de la nature humaine, sont autant d'occasions de sujets nouveaux à débattre en galante compagnie. Tout simplement en compagnie.
Voilà, et là donc en l'occurrence il s'agit du bonheur, donc sur le bonheur chacun a son mot à dire, hein, parce que chacun a sa conception du bonheur. Hume en présente quatre dans ses essais. Il commence donc avec l'épicurien, puis le platonicien, le sceptique.
Le platonicien avant le sceptique. Épicurien, stoïcien, platonicien
et sceptique. Et c'est pas anodin qu'il termine effectivement par le sceptique, puisque c'est sans doute celui dont il se rapproche le plus, le sceptique pour qui aucune chose n'a de valeur en elle-même et donc toute définition du bonheur est finalement relative.
Voilà. Oui, mais en même temps, parce qu'à la lecture de ses essais, effectivement, on sait que David Hume est un philosophe sceptique. Et donc on se dit, finalement, David Hume tire la couverture à lui à la fin, il règle son compte aux trois précédents. Mais au fond, c'est ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce que d'abord David Hume dit que tous les genres de vie, comme celui de l'épicurien, du stoïcien ou du platonicien, sont finalement, peuvent nous procurer le bonheur tour à tour. Et l'erreur, c'est sans doute de se fixer comme règle, de n'avoir qu'une règle pour devenir heureux. Et donc au fond, on découvre un David Hume sceptique, c'est vrai, mais qui est tour à tour épicurien, stoïcien... Et peut-être un peu moins platonicien, mais en même temps reconnaissant que la spéculation sur de grands objets ne doit pas nous être interdite pour être heureux.
C'est ça, par sceptique, il ne faut pas entendre le fait qu'on ne puisse donner aucune définition en termes de bonheur ou qu'on ne puisse résoudre aucune question. Au contraire, sceptique, ça veut sans doute dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir uniquement de manière théorique au bonheur, mais qu'il faut plutôt se tourner vers une forme... il faut se réapproprier la question du bonheur de manière pratique et active.
Voilà, c'est au fond, on sait, si on lit le traité de la nature humaine ou si on lit les enquêtes, on sait que David Hume revient sur cette opposition très classique de la raison et des passions. Et dans ses essais, il revient là-dessus en disant, par exemple, je prends un exemple qu'il donne dans le sceptique, où il parle de la dévotion philosophique, donc le cas du platonicien. Et, si nous avons une simple idée de la divinité, cela peut contenter certains esprits supérieurs, mais ça ne peut pas nous préoccuper longtemps. Il faut être capable de, par les sens et l'imagination, il faut être capable de lui donner une consistance à cette idée. Et il conclut rapidement cette idée en disant, voilà au fond pourquoi les religions ou les superstitions peuvent avoir recours à des histoires. Et on peut penser qu'on peut, par exemple, s'interroger sur la question de l'existence de Dieu ou la question de la divinité. Mais en même temps, pour pouvoir s'y préoccuper longtemps, on comprend qu'à un moment donné, certains esprits puissent s'intéresser à la vie de Jésus, tout simplement.
Le triomphe de l'art et de la philosophie, c'est de rectifier le tempérament par degrés, en ne perdant pas de vue les qualités que nous devons acquérir par des efforts continuels sur nous-mêmes et par un long usage. On a là toute la définition de la philosophie selon Hume, mais sans doute aussi la clé vers le bonheur. Merci beaucoup Christophe Salin. Donc, essai sur le bonheur, c'est donc le titre de ces essais de David Hume, qui grâce à vous sont republiés aujourd'hui, et on trouve ça aux éditions Mille et une nuits. Et vraiment, je vous le dis, c'est, il me semble, accessible et utile à des étudiants en terminale qui préparent le bac cette semaine.
Merci Adèle, merci à tous. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain de 10h à 11h, comme tous les jours, pour la suite et la fin de cette semaine sur le Bac Philo, une semaine en partenariat donc avec Philosophie Magazine et son guide de survie. Une émission que vous pouvez retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent l'écoute en ligne de toutes les émissions précédentes et le téléchargement des émissions de la semaine, ainsi qu'une bibliographie très précise, ainsi aussi d'ailleurs que le détail des activités de la Société Normande de Philosophie, la valeureuse SNFI qu'anime et qu'a fondée le camarade Franck Lelièvre.
Demain, pour finir cette semaine, eh bien on parlera de la mort, tout simplement, en compagnie de Pierre Dulot, qui enseigne au lycée international de Strasbourg. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.